VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 3 janvier 2024. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia pour commencer les titres. Au Mali, les séparatistes Touareg rejettent l'annonce d'un dialogue intermalien pour la paix. La France ferme officiellement jusqu'à nouvel ordre son ambassade au Niger. En Sierra Leone, inculpation de 12 auteurs présumés d'une récente tentative de coup d'État selon les autorités. Explosion près d'un navire marchand dans le détroit de Bab el-Mandeb. Le numéro 2 du Hamas tué au Liban dans une frappe attribuée à Israël. L'ex-président américain Donald Trump a fait appel mardi d'une décision qui l'exclut des bulletins de vote de la primaire républicaine dans l'État du Maine. Ne manquez pas notre page sport, la Minute Écho ainsi que nos dossiers du jour. Pour l'instant, le journal. Les séparatistes Touareg ont rejeté hier mardi l'idée d'un dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation avancé par le président de la transition. Un de leurs porte-parole estime qu'il s'agit d'une façon de prononcer la caducité définitive de l'accord de paix de 2015 entre eux et Bamako. Nanit Talani.
Mohamed El Maouloud Ramadan déclare que c'est un rejet d'un accord déjà signé par toutes les parties est garanti par la communauté internationale et que la rébellion n'est pas prête à prendre part à un processus de paix qui ne sera qu'un simulacre. Lors de ses vœux du Nouvel An dimanche, le colonel Assimi Goïta a annoncé la mise en place d'un dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation afin d'éliminer les racines des conflits communautaires et intercommunautaires et pour privilégier l'appropriation nationale du processus de paix. Lors de ses vœux du Nouvel An dimanche, le colonel Assimi Goïta a annoncé la mise en place d'un dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation afin d'éliminer les racines des conflits communautaires et intercommunautaires et pour privilégier l'appropriation nationale du processus de paix. Il a indiqué que l'unicité, la laïcité de l'État et l'intégrité du territoire ne ferait pas partie des sujets de discussion et a assuré que la lutte contre les groupes armés terroristes se poursuivrait jusqu'à la pacification totale du pays. Les hostilités ont repris en août après 8 ans d'accalmie entre Bamako et la rébellion Touareg qui se sont disputés le contrôle du territoire et des camps militaires laissés par les casques bleus de la mission de l'ONU poussés vers la sortie par Bamako.
L'ambassade de France au Niger, dont Paris avait annoncé la fermeture peu avant Noël, est officiellement close. Elle va poursuivre ses activités depuis Paris, selon une déclaration du ministère français des Affaires étrangères. Les détails avec Yacouba Ouedraogo.
L'ambassade de France au Niger est désormais fermée jusqu'à nouvel ordre. En effet, depuis 5 mois, notre ambassade subit de graves entraves rendant impossible l'exercice de ses missions, blocus autour de l'ambassade, restriction des déplacements pour les agents et refoulement de tous les personnels diplomatiques qui devaient rejoindre le Niger. C'est ce qu'indique une déclaration du Quai d'Orsay qui précise que l'ambassade poursuivra ses activités depuis Paris en maintenant un lien avec les ressortissants français présents sur place et les ONG intervenant dans le secteur humanitaire financé par la France. La fermeture de l'ambassade avait été décidée en parallèle au retrait des derniers soldats français déployés au Niger pour lutter contre le terrorisme. Paris et Niamey entretiennent des relations difficiles depuis le coup d'État en juillet dernier qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Les militaires au pouvoir ont dénoncé plusieurs accords militaires conclus avec Paris et prononcé fin août l'expulsion de l'ambassadeur de France, Sylvain Ité. Celui-ci était resté près d'un mois coincé à l'intérieur de la représentation diplomatique avant de la quitter.
En Sierra Leone, la justice a inculpé mardi pour trahison et complicité de trahison 12 auteurs présumés, selon les autorités, de tentatives de coup d'État le 26 novembre. Parmi eux, un organisateur présumé de l'opération Amadou Koïta, arrêté le 4 décembre. Au total, 85 personnes ont été interpellées, très majoritairement des militaires. Anciens militaires et gardes du corps de l'ex-président Ernest Bai Koroma, M. Koïta était largement suivi sur les réseaux sociaux où il critiquait le gouvernement du président Julius Maada Bio, selon la police.
VOA Afrique à Washington. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'agence de sécurité maritime britannique UKMTO a fait état mardi soir de 3 explosions à proximité d'un navire de transport de marchandises dans le détroit stratégique de Bab el-Mandeb qui sépare la péninsule arabique de l'Afrique. Selon elle, il n'y avait eu aucun dommage et l'équipage était sauf. Ces dernières semaines, dans la foulée de la guerre entre Israël et le Hamas, les rebelles yéménites houthis ont multiplié les attaques en mer Rouge et dans le détroit de Bab el-Mandeb, par lequel transite 12% du commerce mondial, d'après la Chambre internationale de la marine marchande. Le numéro 2 du Hamas a été tué dans une frappe attribuée à Israël près de Beyrouth mardi. C'est ce qu'ont annoncé le mouvement islamiste palestinien et deux responsables libanais près de 3 mois après le début du conflit à Gaza entre le Hamas et Israël. Le point avec John Linden.
Exilé au Liban depuis plusieurs années, Saleh al-Arouri a été tué avec ses gardes du corps dans une frappe imputée à l'armée israélienne qui a visé le bureau du Hamas dans la banlieue sud de la capitale libanaise, fief du Hezbollah pro-iranien, selon deux responsables libanais de la sécurité. La télévision du Hamas a confirmé la mort de Saleh al-Arouri dans une frappe sioniste. Un haut responsable du mouvement islamiste Ezzat al-Rich a assuré que la mort de Saleh al-Arouri n'entraverait pas la vaillante résistance du peuple palestinien. Le premier ministre de l'autorité palestinienne a condamné l'assassinat du numéro 2 du Hamas. Le premier ministre libanais a de son côté dénoncé un nouveau crime israélien qui vise, selon lui, à entraîner le Liban dans une nouvelle phase de confrontation avec Israël. Cette frappe imputée à Israël accentue encore les craintes de voir le conflit qui l'oppose au Hamas entraîner la région dans une spirale de violence. La frontière israélo-libanaise était déjà le théâtre quasi quotidien d'échanges de tirs entre l'armée israélienne et le Hezbollah qui soutient le Hamas, mais jamais une frappe n'avait touché les abords de la capitale libanaise.
Le Département d'État américain a critiqué mardi des commentaires récents de deux membres du gouvernement ultra-conservateur du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui ont prôné la réinstallation des Palestiniens hors de Gaza, dénonçant une rhétorique inflammatoire et irresponsable. Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a appelé dimanche les habitants de la bande de Gaza à quitter l'enclave palestinienne afin de faire place nette aux Israéliens qui sont à même, selon lui, de faire fleurir le désert. L'ex-président américain Donald Trump a fait mardi appel d'une décision qu'il exclut des bulletins de vote de la primaire républicaine dans l'État du Maine, le deuxième ayant pris une telle mesure à 10 mois de l'élection présidentielle. Michel Joseph.
Une semaine après une décision similaire dans le Colorado, le Maine avait estimé jeudi que le grand favori des républicains n'était pas apte à la fonction de président en raison du violent assaut du Capitole commis en 2021 par ses partisans qui contestaient l'élection du démocrate Joe Biden. Les avocats de M. Trump ont demandé mardi à la justice du Maine d'annuler la décision de la secrétaire d'État démocrate du Maine, Sheena Bellows, la qualifiant de dirigeante partiale qui a agi de manière arbitraire et capricieuse. L'État du Maine, comme la Cour suprême du Colorado, on fait valoir le 14e amendement de la Constitution qui exclut de toute responsabilité publique les personnes s'étant livrées à des actes d'insurrection. Le 6 janvier 2021, des centaines de partisans de Donald Trump avaient violemment pris d'assaut le siège du Congrès pour tenter d'y empêcher la certification de la victoire de Joe Biden. Pour les analystes, c'est la Cour suprême des États-Unis qui devra ultimement trancher cette question de l'éligibilité de M. Trump, après que plusieurs procédures ont été lancées dans divers États du pays pour barrer la route aux grands favoris des primaires républicaines. Le Michigan et le Minnesota les ont rejetés.
Le sénateur américain Robert Menendez, déjà inculpé de corruption et de trafic d'influence au profit de l'Égypte, est désormais accusé de faits similaires au bénéfice du Qatar, selon un document judiciaire dévoilé mardi. La justice fédérale l'accuse d'avoir facilité un investissement qatari dans un projet immobilier dans le New Jersey près de New York contre des pots de vin. En septembre, M. Menendez avait nié en bloc les précédentes accusations. Rejetant les appels à sa démission, il avait toutefois renoncé à la présidence de la puissante commission sénatoriale des affaires étrangères. Au Japon, les secours affrontent mercredi une météo très défavorable alors qu'ils tentent toujours de trouver des survivants du terrible séisme qui a touché lundi le centre du pays, faisant au moins 62 morts selon un nouveau bilan provisoire. La Minute Éco, Michel Joseph.
L'économie ghanéenne a progressé de 2,0% annuel au troisième trimestre 2023, a annoncé l'agence de statistiques du pays. L'économie sud-africaine, elle, s'est contractée de 0,2% au troisième trimestre 2023. Selon les données de l'Agence nationale des statistiques, une croissance de 0,5% était attendue à cette période. Du gaz naturel liquéfié nigérian en négociation pour être vendu en Afrique du Sud. Selon l'agence Ecofin, le directeur général de Riverside LNG, David Igwe, a indiqué que son entreprise va finaliser un accord avec des clients basés en Afrique du Sud. Cela marquerait les premières exportations de gaz naturel liquéfié nigérian vers l'Afrique australe. Cette annonce fait suite à un accord conclu en novembre 2023 en prévision d'une première livraison en 2025. Les Égyptiens ont entamé la nouvelle année avec une série de hausses de prix. L'opérateur de télécommunications contrôlé par l'État, Telecom Egypt, va augmenter les prix de ses services Internet d'environ 33% à compter du 5 janvier. Les fournisseurs privés Orange et Vodafone ont aussi augmenté leurs tarifs Internet. Lundi, le ministère égyptien des Transports a rehaussé le prix des tickets du métro du Caire de 20%. L'inflation globale en Égypte a été de 34,6% au cours de l'année 2023.
Merci Michel. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Mohamed Salah espère remporter la CAN 2023 en Côte d'Ivoire.
Je vais gagner cette compétition, a affirmé le capitaine de l'Égypte après son doublé lundi avant de quitter ses coéquipiers de Liverpool pour rejoindre la sélection égyptienne. Par contre, le sélectionneur des Pharaons, Rui Vitória, s'est montré prudent. Chaque match sera abordé comme une finale, nous ne penserons à rien d'autre, a soutenu le Portugais. Finaliste malheureux face au Sénégal en 2021, les Égyptiens vont débuter la CAN dans le groupe B avec le Mozambique, le Ghana et le Cap-Vert. Avec 7 titres, l'Égypte est l'équipe qui compte le plus de victoires finales à la Coupe d'Afrique des Nations.
Le Nigeria vise un 4e titre en Coupe d'Afrique.
Le sélectionneur des Super Eagles, José Pesero, l'affirme, mais il a admis que ce serait un véritable défi. Le dernier des 3 titres continentaux du Nigeria a été remporté il y a 10 ans en Afrique du Sud. Nous allons nous battre pour gagner la Coupe d'Afrique, même si ce ne sera pas facile, a déclaré Pesero. Pour cela, il faut d'abord se sortir de la phase de groupe et le Nigeria va jouer contre le pays hôte, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. L'équipe du Nigeria a commencé son regroupement à Abu Dhabi hier pour un camp d'entraînement avant de s'envoler pour la Côte d'Ivoire. Elle va entamer sa campagne le 14 janvier contre la Guinée équatoriale à Abidjan.
Au Kenya, les deux suspects du meurtre de Benjamin Kiplagat sont en détention.
Les deux hommes soupçonnés du meurtre de l'athlète ougandais la semaine dernière dans la vallée du Rift ont été présentés à la justice et écroués hier. Les deux suspects, âgés de 25 et 30 ans, ont été placés en détention pendant 21 jours par un tribunal de la ville d'Eldoret, le temps que la police poursuive son enquête sur le meurtre du coureur du Stiple. La police kenyane a annoncé lundi l'arrestation de ces deux hommes, qualifiés de criminels connus qui terrorisaient la population près d'Eldoret, où le corps de Benjamin Kiplaga, poignardé au niveau du cou, a été retrouvé dans une voiture dans la nuit de samedi à dimanche. Le mobile du meurtre demeure inconnu. Kiplaga, né au Kenya et âgé de 34 ans, a représenté l'Ouganda sur 3000 mètres steeple lors de plusieurs éditions des Jeux Olympiques et des championnats du monde.
Merci, Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La Somalie exprime son mécontentement au lendemain de la signature d'un accord entre la région séparatiste du Somaliland et le gouvernement d'Addis Abeba, offrant à ce dernier un accès maritime grâce au port de Berbera. Mogadiscio promet de défendre sa souveraineté par tous les moyens légaux, en rappelant du coup son ambassadeur en Éthiopie. Pour une analyse sur les implications de l'accord entre l'Éthiopie et le Somaliland, Abdourahmane Dia a joint à Paris Patrick Ferras, spécialiste de la Corne de l'Afrique.
Alors c'est important parce que, comme vous savez, l'Éthiopie géographiquement est un pays enclavé. Ça donne donc certaines difficultés pour tout ce qui est importation et exportation. Et surtout quand on sait que la région est très faiblement intégrée, qu'il y a eu des conflits, donc ça ne marche pas très bien les échanges de commerce. L'Éthiopie a toujours décidé, toujours voulu aller un petit peu au-delà de cet enclavement. Donc elle a toujours été le partenaire privilégié de Djibouti, qui en tire des grands bénéfices aussi. Mais elle a toujours voulu aussi, et notamment depuis qu'Abiy Ahmed a pris le pouvoir, revenir un petit peu et puis faire diversifier ses partenaires. Donc c'est la raison pour laquelle l'accord avec le Somaliland ne devrait surprendre personne, puisque Berbera serait un deuxième port dans le futur, hein, parce que l'état actuel de Berbera ne permettra pas de remplacer Djibouti tout de suite. Hein.
Alors le Somaliland est tout de même un territoire séparatiste de la Somalie qui n'est pas encore reconnu par la communauté internationale. Est-ce que cela ne pose pas problème?
Alors ça pose deux problèmes en même temps. C'est que, comme vous dites, ce n'est pas reconnu par la communauté internationale. C'est un quasi-état qui fonctionne pratiquement comme un état à peu près stable, même s'il y a quand même quelques querelles avec la région du Puntland, qui est la région de la Somalie aujourd'hui, une des régions de Somalie. Mais le Somaliland n'est donc pas reconnu. Et donc c'est étonnant de voir l'Éthiopie, mais qui a toujours eu des liens très privilégiés avec le Somaliland, donc c'est étonnant de voir cet accord signé. Mais bon, c'est des besoins éthiopiens, si l'on peut dire, on peut le comprendre. Mais là où ça devient plus intéressant, c'est qu'il y a deux jours, trois jours, il y a eu un accord entre le Somaliland et la Somalie, des négociations dirigées par Ismaël Omar Guelleh, le président de Djibouti, pour que les négociations reprennent entre la Somalie et le Somaliland pour revenir à une situation de calme, si l'on peut dire. Voyez, donc ce qui explique un peu l'irritation sûrement de la Somalie aujourd'hui, de voir en même temps le Somaliland discuter avec elle et en même temps avec l'Éthiopie. Bon, sachant que tout le monde, personne n'est dupe, hein, le Somaliland ne veut pas revenir dans le giron de la Somalie.
Mmh. Oui. Le dirigeant du Somaliland, d'ailleurs, Biya Abdi, a déclaré que l'Éthiopie, en échange, va reconnaître ce territoire. Quelles peuvent être les implications régionales?
Dans le futur, il se pourrait qu'elle le reconnaisse. Bon, après, ça sera un petit peu comme la République arabe sahraoui démocratique. Il y a des gens qui l'ont reconnu et puis il y a des gens qui ne l'ont pas reconnu. Voilà. De là à ce que les gens ou les États, si vous voulez, reconnaissent le Somaliland, je crois qu'on en a pour un très longtemps et on est là dans les espaces de 10-15 ans. Et même si l'Éthiopie, demain matin, reconnaissait le Somaliland, ça n'amènerait pas grand-chose dans l'organisation régionale. Si vous voulez. Maintenant, l'avantage aussi de l'Éthiopie en prenant pied, si l'on peut dire, au Somaliland, c'est qu'elle se crée un deuxième port et que ça pourrait booster un tout petit peu son commerce, notamment avec son entrée dans les BRICS, qui est officielle depuis le 1er janvier. Ouais.
Joint à Paris, Patrick Ferras, spécialiste de la Corne de l'Afrique.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Les liens entre le Mali et son voisin algérien sont tendus. Les deux pays ont rappelé leurs ambassadeurs suite à la décision des autorités algériennes de recevoir des membres de la CEMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, et l'imam Mahmoud Diko, ancien président du Haut Conseil islamique du Mali. Pour une analyse, Eric Manirakidza a joint à Dakar, au Sénégal, Ibrahim Makan, qui dirige le programme de plaidoyer pour l'Union africaine au bureau ouest-africain de l'ONG OSIWA.
Ça va être compliqué pour les autorités maliennes. Le discours du président du 31 décembre marque une volonté des Maliens de vouloir contrôler davantage le processus de paix, ce qui, fondamentalement, est une bonne chose. Mais en même temps, lorsqu'il s'agit d'une crise qui est une longue crise, une crise qui a ses racines, pas seulement au Mali, mais dans toute la sous-région, on a besoin d'un autre acteur qui peut servir d'intermédiaire. Et dans le contexte actuel, surtout pour ce qui concerne la communauté Touareg, il n'y a que l'Algérie qui peut jouer un rôle fondamental dans cette crise-là. Et donc, à mon avis, c'est une brouille. Les Maliens et les Algériens ne sont pas encore d'accord sur la meilleure méthode à utiliser pour solutionner la crise, d'autant plus que l'armée malienne maintenant s'est beaucoup investie dans le nord du pays pour récupérer les terrains perdus. Ça crée des frictions, mais c'est impossible pour les Maliens de trouver une solution interne à la crise sans la participation du voisin algérien. C'est impossible. Par le passé, ils l'ont essayé. Ils n'ont pas réussi. Ils ont été obligés d'aller à Alger et avoir des accords. Peut-être que dans le processus qui va venir, il y aura la renégociation des accords d'Alger parce que le gouvernement militaire malien a toujours insisté sur ce volet. Peut-être que cette crise-là va ouvrir la voie à une renégociation du fameux accord d'Alger.
Ibrahima Kane, quel impact l'initiative du Maroc visant à ouvrir l'Atlantique aux pays du Sahel pourrait-elle avoir sur les relations régionales et les équilibres géopolitiques, notamment par rapport à l'influence historique de l'Algérie dans cette région?
Alors, l'initiative marocaine, aussi intéressante qu'elle puisse être, à mon avis, est vouée à l'échec. D'abord parce que les pays en question, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, n'ont pas de frontière directe avec le Maroc. Donc ça pose la question d'une intermédiation, soit par la Mauritanie ou bien par l'Algérie et le Sahara occidental, la RASD. Et ça va être très difficile. Mais plus fondamentalement, parmi les États qui ont créé cette coalition du Sahel, il y en a un, particulièrement le Niger, qui a des rapports tellement profonds avec l'Algérie que je vois mal le Niger changer cette orientation politique pour aller se jeter dans les bras du Maroc, surtout dans le contexte de rivalité entre l'Algérie et le Maroc. Je pense que c'est une idée qui est avancée, mais c'est une idée dont la matérialisation, à mon avis, va être très, très, très difficile du point de vue géographique, mais aussi du point de vue géopolitique, parce que l'Algérie fera tout pour bloquer une initiative de cette nature-là. Elle ne laissera jamais le Maroc empiéter sur ses relations avec un pays comme le Niger et même dans une moindre mesure avec le Mali, parce que le Mali et l'Algérie ont des relations qui datent de la période de la guerre de libération de l'Algérie. Et donc, le Maroc arrivera difficilement à se frayer un chemin dans ces relations-là, dans cette zone géopolitique du Sahel.
Ibrahima Kane, responsable du programme de plaidoyer pour l'Union africaine au bureau ouest-africain de l'ONG OSIWA.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Au Niger, les concertations régionales en prélude au dialogue national inclusif annoncé par la junte militaire après la prise du pouvoir ont démarré. C'est à Agadez que le premier ministre de transition, Ali Mahamane Lamine Zeyne, a donné le coup d'envoi le week-end dernier. Un reportage de notre correspondant Abdelrazak Idrissa.
Au cours de ce lancement, les propositions des forces vives de la région d'Agadez sur les principaux axes de la transition ont été présentées au premier ministre. Ali Mahamane Lamine Zeyne a particulièrement apprécié celles relatives aux priorités sur lesquelles les autorités de transition doivent s'attaquer dans le domaine du développement socio-économique. Là-dessus, les populations de la principale région minière du Niger ont notamment proposé une rapide mise en valeur des richesses.
J'ai bien retenu que c'est des propositions que vous faites pour qu'on diversifie et qu'on mette en valeur l'essentiel de nos richesses. C'est de cela qu'il s'agit. Nous sommes en train de regarder tous les accords que vous pouvez imaginer. Agadez est le meilleur exemple de la région que l'exploitation de nos minéraux, en réalité, n'a pas servi notre peuple.
Les populations d'Agadez ont également exprimé le vœu de voir les nouvelles autorités travailler sur le rétablissement des valeurs fondamentales pour un vivre ensemble.
Vous avez parlé du renforcement de l'unité nationale, la paix, la cohésion sociale et la solidarité nationale. C'est très important ce que vous avez fait parce que c'est ça qu'on vit cela depuis pratiquement le 26. Jamais on a vu les Nigériens aussi ensemble, où ce bâtisseur de nations qui dort en chacun d'entre nous se réveiller, se mettre la main et espérer.
En rappel, la tenue de ce dialogue national inclusif a été une des premières annonces du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie à sa prise de pouvoir. Le général Abdrahmane Tchiani l'a récemment rappelé dans son adresse à la nation à l'occasion de la célébration de la fête de la République le 18 décembre.
Il proposera des réformes nécessaires pour le futur avec une feuille de route pour la transition et un programme stratégique d'action pour la refondation de l'État. Ces assises seront bientôt convoquées.
La date de la tenue de ce dialogue n'est toujours pas fixée. Se tiendra-t-il avant l'arrivée annoncée des médiateurs désignés par la CEDEAO ce mois de janvier à Niamey? Rien n'est sûr et même si le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a indiqué que la durée de la transition ne saurait dépasser 3 ans, les termes de référence de la tenue des concertations régionales précisent qu'entre autres, ce sera aux participants au dialogue national inclusif de déterminer la dite durée. Abdul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Togo, Star Librairie, l'une des dernières grandes librairies du pays, vient de fermer définitivement ses portes dans la capitale. Une décision expliquée notamment par la mévente, le problème créé par les œuvres littéraires piratées, de même que la non-application du protocole de Florence sur la détaxe concernant les livres. Cette fermeture a entraîné déception et tristesse chez les écrivains et les amoureux du livre, comme nous allons l'entendre dans ce reportage de Kossi Wosou, notre correspondant à Lomé.
À quelques heures de la baisse définitive des grilles de Star Librairie, en bordure de mer dans la capitale togolaise, Mimi, une habituée des lieux, retient à peine ses émotions lors de sa dernière visite.
C'est un endroit que j'ai l'habitude de fréquenter depuis de nombreuses années déjà. Parfois en sortant du boulot, j'y viens. Déjà pour m'acheter des livres pour moi, mais aussi pour mes enfants, les neveux, les filleuls. Il y a vraiment beaucoup de bonnes choses. Il y a en plus l'opportunité d'avoir des livres d'occasion. Donc, très triste et déçu aussi.
Alan, qui visite la librairie Star depuis sa tendre jeunesse, regrette que rien ne soit fait pour la sauvegarder.
Je ne vois plus pratiquement de librairie à Lomé à part Star. Il y a Bon Pasteur à côté, mais c'est beaucoup plus axé sur scolaire. Mais avec Star, on avait quand même la possibilité de commander des livres que vous ne trouvez pas. Donc il suffit de leur dire que vous avez besoin d'un tel ouvrage et puis ils vous passent la commande. Aujourd'hui, ils vont fermer, ils vont partir, nous on va rester. Ça, c'est vraiment un sentiment de tristesse.
Avec la fermeture de la librairie Star, Renaud Aïvi Assogbavi, jeune écrivain, craint pour le réseau de distribution des œuvres littéraires au Togo.
Le fait qu'il n'y ait pas de circuit de distribution, c'est un poids réel sur nous également dans ta côté, parce que si tu n'as pas un circuit dédié, tu te trouves avec les livres chez toi, en fait. Et tu es distributeur, même si ce n'est pas toujours évident. Donc, quand il y a des professionnels, comme des libraires qui s'occupent de ça, et quand il y a un endroit où le grand public, qui ne te connaît pas forcément, ou qui n'a pas envie de venir chez toi prendre un livre, peut retrouver un ouvrage, déjà, c'est essentiel. Donc, oui, clairement, ça aura un impact fort pour moi, déjà.
Pour Jerry Tama, qui a eu aussi à fermer sa librairie, il y a péril en la demeure.
Non, mais il y a un grand danger, parce qu'après Star, il reste que la librairie Bon Pasteur. Il faut reconnaître qu'en termes de richesse du catalogue, Star était la librairie qui avait le plus de catalogue. Donc ça fait plusieurs années qu'elle se bat, en étant toujours en faillite. Et puis bon, ben, on ne peut pas être dans un business où on est en faillite en permanence. Pour moi, je pense que logiquement, l'État togolais devait tout faire pour sauver cette librairie-là. Parce qu'on ne peut pas être dans un grand pays comme le nôtre, on ne peut pas être dans une grande capitale de plus de 2 millions d'habitants sans une librairie de référence.
Dans un post sur Facebook, Togoata Aba, professeur des universités et écrivain, déclare que, par rapport à la rareté des librairies au Togo, la fermeture de la librairie Star est une catastrophe, un monde qui s'effondre, un monde qui disparaît. Kossi Wosou, Lomé pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde de Michel Joseph, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, X, l'ex-Twitter,
et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.